Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co. Afen & Co, la collégiale de la FEN, on en est au numéro 409. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet passionnant, le podcast apprenant, un nouvel outil dans la palette des responsables de formation. Mais qu'est-ce que ça représente? En quoi c'est utile? Est-ce que finalement, ce n'est pas un phénomène de mode, comme beaucoup de gens le disent? Et pour ça, on avait besoin d'un spécialiste pour aborder le sujet, David Gordon. David Gordon,
Bonjour.
qui est CEO de Nouvelle Voix. Bonjour David.
Merci de me recevoir, Stéphane. Bonjour.
Eh bien, c'est avec beaucoup de plaisir. Alors, je dis tout aux auditeurs, on s'est vu sur le salon Solutions RH et donc on a eu l'occasion d'échanger. J'ai bien aimé son rythme, sa façon de parler et ce qu'il avait à dire. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse un podcast ensemble. Et bien maintenant, ça va être fait. Voilà.
Et l'histoire, elle est encore plus dingue, Stéphane, parce que tu m'as appelé il y a quelques minutes pour dire quand est-ce qu'on se programme. Et comme moi, je suis passionné de podcast et j'ai envie d'en parler, j'avais un créneau d'une heure, là, voilà, qui était là, comme un cadeau de temps. Et je t'ai dit, bah, viens, on le fait maintenant. Et t'as dit, d'accord. Donc là, on est sur un truc qui est
Exactement.
quasi improvisé, mais c'est ça qu'on aime.
Exactement, parce que c'est vivant et c'est ça qui est important dans. Alors peut-être qu'on démarre directement dans le sujet.
Ah,
C'est
vas-y.
quoi un podcast concrètement?
Écoute, un podcast, c'est l'équivalent d'une émission de radio, sauf que à la différence d'une émission de radio qui peut être écoutée que sur la bande FM, à un créneau particulier, un podcast, on va pouvoir l'écouter à tout moment sur une plateforme qui peut contenir des centaines de milliers, y a pas, c'est illimité. Donc, c'est des contenus sonores à l'origine qui sont construits pour être consommés quand on veut. Avec différentes durées, selon la durée qu'on veut mettre dans la production du podcast. Et pourquoi ça change par rapport à la radio? Parce que tout d'un coup, il y a tout un tas de créateurs, de gens qui avaient des choses à dire, à transmettre, qui se sont dit, eh ben, avec un micro, je peux créer mes propres émissions de radio qui vont prendre la durée que je veux, où je vais pouvoir transmettre ce que je veux. Et finalement, ça marche du tonnerre depuis des années et des années, parce que c'est un moyen d'expression, de transmission, c'est un moyen d'apprendre à tout moment avec un vecteur qui est la voix. Et on sait que la voix, c'est un média génial, parce que la radio, ça existe depuis des centaines d'années, enfin, un peu plus que 100 ans,
Peut-être
mais
pas,
non, peut-être pas loin,
pas des centaines,
peut-être une
mais
centaine d'années.
voilà, exactement. Et alors que le podcast est né en 2005, le mot podcast est né en
Oui.
2005, au moment où les flux RSS ont permis d'automatiser les réactualisations de l'iPod à l'époque, puisqu'il n'y avait que ça.
Exactement,
Mais
exactement. Ça vient du mot iPod. Effectivement, c'est les premiers baladeurs. Et le mot iPod a donné lieu au podcast parce qu'on pouvait récupérer dans son iPod des petites émissions qui étaient construites simplement pour être dans les oreilles au moment de transport, des moments où on pouvait écouter de la musique. Donc, c'est là que ça vient.
Et donc c'est vraiment très intéressant. Et alors, qu'est-ce que ça change par rapport à ceux qui se disent, je crée une chaîne YouTube? Alors, outre le fait qu'il y ait l'image, bien sûr, hein, on est d'accord.
Alors, c'est la différence majeure. Quoique, Stéphane, on nous demande de plus en plus de faire des podcasts filmés. Et donc ça, on va en parler, parce que c'est une
D'accord,
tendance
ouais,
lourde, une
d'accord.
tendance majeure.
Ouais. Comme sur
Qu'est-ce
la
que ça...
radio, d'ailleurs.
Oui, comme sur la radio, la radio qui est de plus en plus filmée depuis longtemps. Alors, pas depuis des centaines d'années, mais depuis longtemps.
Exactement.
Qu'est-ce que ça change? Je vais déjà te dire ce que ça ne change pas. C'est-à-dire que de la même manière que sur YouTube, on peut diffuser de manière très autonome des choses. Ben, un podcast, c'est pareil. On peut, n'importe qui peut aujourd'hui enregistrer même avec son téléphone. Alors, je parle que de technique, je parle pas de savoir-faire. On va y revenir sur le
Bien
savoir-faire
sûr.
qui est bien particulier, qui s'est professionnalisé avec les années. Mais on peut enregistrer un témoignage, une émission et le diffuser sur toutes les plateformes. Alors, toutes les plateformes, c'est Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, Deezer, etc., etc. Donc, on va pouvoir le diffuser comme ça. Et en plus, c'est gratuit. Enfin, il faut payer un abonnement avec un hébergeur qui ne coûte pas très cher et on va pouvoir le diffuser. Ça, c'est à peu près ce qui ne change pas avec YouTube. Ce qui change maintenant, eh ben, en fait, on passe d'un univers à un autre. On passe d'un univers vidéo, avec tout ce que ça implique en termes de rétention face à l'écran, en termes de durée de vidéo qui doit être courte aujourd'hui, parce qu'on est dans un phénomène de TikTokisation des contenus, donc ils doivent être de plus en plus courts. Pourquoi ils doivent être courts? Parce que notre capacité à pouvoir regarder un écran, elle est pas très grande, en fait. Et on est dans nos écrans systématiquement pollués par par des petites notifications, par des pubs, par etc., etc. Et donc, du coup, notre attention vis-à-vis de la vidéo, elle est de moins en moins forte. C'est pour ça que on raccroche avec les apprenants. Lorsqu'on fait du tout vidéo ou lorsqu'on fait du tout e-learning qui nécessite un rapport à l'écran, attention, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus auditifs, qui préfèrent écouter. Et c'est l'une des choses qu'apporte le podcast, c'est qu'on va enfin pouvoir diffuser des choses pour apprendre qui peuvent être entendues. Parce que oui, par rapport à la vidéo et YouTube, le podcast va pouvoir être entendu sur un moment de pause, même en travaillant, sur un moment de transport. Il y a 85% des gens qui écoutent leur podcast dans leur transport. C'est incroyable. C'est vraiment un nouvel espace qui s'ouvre pour consommer du média. Et en l'occurrence, parce que nous, on fait beaucoup de podcast learning, c'est un nouveau moment où les gens peuvent consommer du podcast pour apprendre.
Exactement. Et là où tu as raison, c'est que par rapport à la vidéo, c'est l'attention. L'image capte l'attention et donc ça pose des problèmes justement de mémorisation. Parce que je vois des détails, je vois la façon dont les gens s'habillent, je vois la façon dont l'environnement bouge, alors que finalement, dans l'audio, ben, je suis avec mon interlocuteur, celui qui parle.
Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose de très intimiste dans la manière de consommer de l'audio. Alors, celles et ceux qui nous écoutent là maintenant, parce qu'on est en podcast, on n'est pas en vidéo, et tu fais ce choix-là délibéré, Stéphane, et bravo, bah, ils vont peut-être s'imaginer la tête qu'on a. Ils vont se
Oui, absolument.
figurer quel est le visage derrière ces voix. Et quelque part, eh ben, ça crée une écoute qui est active. C'est-à-dire que par rapport. Alors, je compare les deux, on fait aussi de la vidéo. Hein. Je ne veux pas du tout dire que la vidéo, c'est pas bien. Je montre juste les différences. Parce que la vidéo qu'on propose aussi à nos clients, on en fait, ça a énormément d'avantages. Et je pourrais en parler, mais on est sur un sujet de podcast, donc
Monsieur.
je focus là-dessus, Stéphane. Mais le fait d'imaginer la tête qu'ont les gens qui parlent, eh ben, en fait, ça crée quelque chose de particulier dans la tête. Lorsque dans un podcast, on y rajoute ce qu'on appelle du sound design, ça veut dire des bruits, des musiques, des ambiances sonores. Et on plonge complètement les auditeurs dans un univers qu'ils vont imaginer. Et en fait, faire en sorte que les gens imaginent quelque chose, c'est quelque chose de très important pour pouvoir avoir un peu de rétention. Ça crée de la rétention. C'est pour ça que c'est
Parce
génial le
qu'on se
podcast.
crée des images dans sa tête, donc c'est déjà un premier pas vers la mémorisation.
Bien sûr, tu te crées tes propres images. Il y a peu de médias aujourd'hui où tu peux te créer tes propres images.
Quitte d'ailleurs à être déçu, parce que quand on les voit en vrai, bah finalement, ça n'a rien à voir. Et souvent, pour être amateur de podcast, j'ai vu des gens en vrai, je ne les imaginais pas du tout comme ça. Je les voyais beaucoup plus jeunes, beaucoup plus dynamiques, et puis finalement, rien à voir.
Oui, mais alors tu sais, dans le podcast de learning qu'on fait, on n'est pas déçu parce que déjà, les gens, on les voit jamais. Alors. Parfois, on voit les managers de l'entreprise qu'on interviewe, etc. Mais on essaye surtout de plonger les auditeurs dans un autre univers. On a fait un podcast, par exemple, pour La Poste. L'idée, c'était de faire monter en compétence tous les postiers, l'intégralité des postiers, sur les sujets de terrorisme et de blanchiment d'argent. Parce que c'est une banque et parce que la compliance, les gens qui nous écoutent reconnaissent ces sujets-là, la compliance veut que tout le monde soit sensibilisé au sujet du blanchiment d'argent et du terrorisme financier. Et en fait, ce qu'on a fait, on a plongé complètement les auditeurs dans le Chicago des années de prohibition, parce que c'est de là que vient le blanchiment d'argent. On les a plongés dans des journaux télévisés pour parler du terrorisme financier, etc. Et donc, du coup, finalement, ils se sont imaginés une fiction, quelque chose de différent qui les a un peu sortis de leur quotidien. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit en retour une fois qu'ils ont été diffusés ces podcasts.
Donc c'est génial parce que tu crées un univers. Est-ce que
Absolument.
finalement, qu'est-ce que ça apporte de plus qu'un Alain Decaux qui raconte une histoire, c'est-à-dire quelqu'un qui est un bon conteur, qui est un peu inspirant, qui sait transmettre de l'émotion, de créer un univers?
En fait, maintenant, quand tu écoutes, par exemple, des podcasts de fiction, enquête criminelle, quelque chose comme ça, ils utilisent tous le sound design, tous la musique. En fait, ça prolonge l'émotion. Je vais te donner un exemple très simple. Si je fais un discours en disant, tu sais, comme dans les films américains où je dis, vous, Américains, on va réussir à combattre les zombies qui nous viennent d'Amérique, bref. Bon, s'il n'y a
Ouais.
pas de musique, c'est
On
moyen.
voit l'exemple.
Mais si tu me mets une musique qui va prendre là comme ça, avec une musique
Ouais.
patriote, et que derrière, et que je fais le même discours, bah, l'effet, il est complètement différent. Et en
Ouais.
fait, bon, on ne met pas des grandes musiques patriotes dans les podcasts, non, je le dis tout de suite. Mais en revanche, cette musique-là, elle va venir appuyer des choses. Elle va être choisie pour soit appuyer des thèmes, des thématiques, soit pour rassembler la concentration. Parfois, délibérément, on met un petit son, un petit jingle, on appelle ça aussi une petite virgule, qui permet aussi de raccrocher les gens, parce qu'on sait que le podcast peut avoir pour effet de faire divaguer un peu l'esprit, parce que comme les yeux sont un peu partout, bah hop, les yeux peuvent se poser sur quelque chose. On le sait, ça. On le sait très bien. Mais c'est pour ça qu'à chaque thème, paf, on fait en sorte de travailler nos podcasts pour qu'il y ait l'attention qui revienne, pour qu'on répète ce qui s'est dit avant et pour raccrocher continuellement l'auditeur.
Alors, c'est quoi le bon format dans un podcast? On dit souvent c'est 20 minutes, un truc comme ça, ou soit très court, soit une vingtaine de minutes, 20, 30 minutes.
Alors, nous, on a une chez Nouvelle Voix, on a une conviction très très forte vis-à-vis de ça. Nous, on pense que le podcast de formation doit être très très court, très très anglais, autour de questions. La raison, c'est la
Très
suivante.
court, ça fait combien?
Très court, c'est 5 minutes. On en fait
D'accord.
même, on en fait même parfois de 1 minute.
Ouais, tu peux dire
Pourquoi
des
on fait
choses,
ça?
toi.
Ouais, on peut déjà dire des choses en 1 minute. Si je te dis faire un feedback de progrès, en fait, c'est la méthode FERA, fait comme fait, E comme émotion, R comme ressenti, A comme amélioration. En fait, ça, j'ai m'a pris 20 secondes pour le dire. Donc, j'ai 40 secondes en plus pour l'illustrer. Déjà, je dis beaucoup de choses et je donne une méthode. En 5 minutes, je peux exprimer beaucoup plus de choses. Mais pourquoi on fait si court? En fait, nous, on croit que dans le cadre, et je ne dirais pas la même chose pour des podcasts de communication qu'on produit par ailleurs. Je ne le dirais pas de la même manière. Là, particulièrement pour les podcasts learning, en fait, les collaborateurs et les collaboratrices, nous, on s'attend à ce qu'ils écoutent ces podcasts parce qu'ils ont un besoin. Je m'entends pas avec quelqu'un, j'ai une gestion de conflit, je veux dire à quelqu'un qu'il arrive en retard, j'ai envie de gérer mes émotions. Ils ont un sujet. À ce sujet, il faut pouvoir apporter une réponse, une promesse qui dure pas 1 heure. Il faut que rapidement on puisse l'aider. Et alors nous, on segmente nos parcours pédagogiques autour de questions très précises qui doivent venir répondre aux problématiques des collaborateurs, parce qu'en fait, ces podcasts-là, ils vont les consommer à tout moment de l'année, pas seulement au moment où on leur demande de faire un e-learning. C'est ça la grande différence, parce que là où un e-learning, on le fait une fois, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, etc., on n'y revient plus, c'est bien normal. Le podcast, on y revient, parce que ça dure que 5 minutes, parce qu'on n'est pas obligé d'être devant son PC ou devant son Mac, et que du coup, ça, c'est du contenu de poche qui va permettre aux collaborateurs de se former à tout moment. Par exemple, dans le transport, en arrivant au travail ou en repartant le soir du travail.
Et ceux qui choisissent le podcast pour faire de l'acculturation, c'est-à-dire
Ouais.
où quelqu'un parle d'un sujet, etc., 5 minutes, c'est trop court, quoi. Je veux dire, on a besoin de rentrer dans son histoire, donc il faut un peu plus de temps.
Oui, alors après, il y a effectivement notre conviction sur les podcasts qui permettent d'ancrer des compétences. Et nous, on pense, avec mon associé Cécile Larue, qui est passionnée de contenu de formation et de pédagogie, qu'en fait l'ancrage va marcher si on va pas donner trop d'éléments d'un coup. Voilà, il faut un ou deux messages, les ancrer, les répéter, etc.
Mais
En revanche,
l'acculturation, c'est plutôt,
alors c'est
c'est
différent.
une ambiance, voilà.
Je suis d'accord avec toi, Stéphane. Lorsqu'on veut sensibiliser, acculturer, on peut se permettre, comme on le fait actuellement, comme tu le fais là, d'être plus long, parce que en fait, les gens qui vont écouter vont, on espère, avoir un attrait, une envie d'écouter. Ils ont un intérêt de par leur travail ou leur passion, etc. Donc, lorsqu'on veut sensibiliser à culturer, on peut se permettre, effectivement, de poser le décor, comme tu l'as fait tout à l'heure, en c'est quoi un podcast, en défrichant un peu le sujet et en approfondissant un peu l'histoire. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais en entreprise, vraiment, je me permets de le dire, c'est assez rare qu'on fasse des podcasts qui durent 1 heure, en fait. C'est pour le Et pour tout te dire, on l'a jamais fait. Parce qu'en fait, les collaborateurs, ils veulent pas donner autant de temps à un contenu proposé par l'entreprise. Donc en fait, on essaye de faire autrement.
Sauf si le contenu les intéresse. Je
Ouais.
pense par exemple à une boîte de grande distribution sur l'île, voilà,
Ouais.
qui justement a fait des
Il y en a
podcasts.
plusieurs.
Ouais, c'est pour ça, mais c'est toujours dans la même famille, hein. Voilà. Et voilà, voilà, je dis rien, je dis ça, je n'en dis pas plus. Mais ça veut dire qu'ils ont choisi d'interviewer des influenceurs, des gens qui sont doués dans leur domaine. Et donc, de mémoire, ça faisait 20-30 minutes, les interviews. Mais comme c'était quelqu'un, c'est Maurice qui travaille, et quand je suis rentré, c'était mon patron, y a vraiment tout le monde avait envie de les entendre. Et donc, finalement, il y avait une appétence dessus. Et une fidélisation en revalorisant les gens qui étaient interviewés pour pas que ce soit pénible, mais ça a donné de beaux résultats sur l'acculturation du changement.
Absolument. Et en fait, ce que tu dis est assez crucial. C'est-à-dire que comment on fait pour que, dès le début du podcast, les gens qui écoutent, aient envie de l'écouter? Comment on fait? Parce qu'en
Ouais,
fait, si c'est perçu comme quelque chose de trop descendant, la direction veut qu'on écoute ce podcast, ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, on n'est pas des moutons. Les e-learning obligatoires, on sait qu'on les fait tous et toutes.
on les
Avec une
annule, on enlève
enclume.
le son.
Voilà, on enlève le son, on a l'enclume au pied et on le fait rapidement, sans beaucoup d'en. Parce qu'il faut le faire, et ben, on le sait, on le sait. Donc là, on touche à un sujet qui s'appelle la motivation intrinsèque. C'est comment on va faire pour créer dès le début du contenu une motivation qu'on va aller chercher à l'intérieur. Si je te parle par exemple de gestion des conflits, on ne va pas ouvrir le podcast en disant vous avez des conflits avec vos collègues, etc. On va dire par exemple. Dans ce podcast, vous allez comprendre par exemple comment résoudre vos conflits avec vos enfants, vos femmes, vos amis, vos collègues. Tout ça, c'est la même méthode et on va vous l'apprendre maintenant. Donc, on le fera en mieux parce que là, j'ai un peu bégayé. Mais en fait,
Bien
si
sûr.
tu dis qu'en fait, la formation, elle va t'aider dans ta vie, si tu dis que la formation, elle va t'aider pour progresser, là, on touche à la motivation intrinsèque et là, on peut tirer le fil.
Ouais, donc ça c'est bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme dans n'importe quelle formation, il faut faire du marketing, tout simplement, de
Ouais.
voir qu'est-ce qui intéresse les gens et pour leur donner, et donc derrière, pour pouvoir faire les objectifs pédagogiques qui sont les nôtres.
Ouais.
Il y a certaines personnes qui critiquent, tu es adepte du snack content, tes petits formats. Il y en a beaucoup qui disent que ça fait de la fragmentation. Et donc finalement, tu apprends, mais tu ne retiens pas. Donc ce qui fait que, parce qu'en fait, ben, ce sont des pépites, mais des pépites mis bout à bout, ça ne fait pas une histoire.
Ouais.
Et donc la mémorisation n'est pas là.
En fait, je suis d'accord, mais moi, j'en vois assez peu de la fragmentation dans les entreprises, dans les grands comptes, dans les entreprises dans lesquelles on travaille. Effectivement, quand on est sur TikTok, sur Insta, etc., on retient rien, on scrolle, parce que les choses ne sont pas construites de manière à ce que, ils aient envie que tu retiennes, ils ont envie que juste que tu regardes jusqu'au bout. Et bon, mais dans les entreprises, bah moi, je vois pas particulièrement de fragmentation parce que c'est toujours réfléchi quand même. Il y a toujours une stratégie pédagogique.
Bien sûr.
On essaye toujours d'avoir un début, une fin. Et moi, j'aime bien comparer ce qu'on fait avec des séries Netflix. Une série Netflix qu'on pourrait comparer à un parcours pédagogique podcasté. Alors, quels sont les points communs qu'on essaie d'atteindre? Dans une série Netflix, il y a bon, un début et il y a un arc narratif qui arrive jusqu'à la fin de la première saison. D'accord? Donc, dès le début, tu as envie de savoir ce qui se passe à la fin de la saison. Ça, c'est la première chose. Quand tu arrives à la fin du premier épisode, tu as ce qu'on appelle un cliffhanger qui t'invite à regarder le deuxième épisode. Et donc, tu es pris comme ça dans une série d'injonctions quelque part qui t'arrive du récit, hein, du narratif, qui t'engage à aller plus loin. Et ben en fait, c'est aussi ce qu'on essaie de faire avec des podcasts. Alors, je ne sais pas si c'est fragmenté. Mais moi, je crois plutôt que fragmenter pour avoir deux, trois messages clés, bah, ça va être plus apprenant, ça va donner plus de rétention que si on a 1 heure de contenu avec tout plein de trucs et finalement, on ne sait plus ce qu'on a entendu au début.
Est-ce que avec Netflix, pour reprendre ton exemple, est-ce que finalement on lutte pas contre la fragmentation en faisant des séries?
Ouais.
C'est-à-dire qu'on sait que j'apprends un petit truc, mais ça s'inscrit dans une grande démarche sur laquelle je sais qu'il y a quelque chose, et de un peu comme le pointillisme en peinture, de
Ouais.
point en point, ça fait un tableau. Mais on sait qu'il y a le tableau, et c'est ça qui
Absolument.
fait la fidélisation,
Oui, c'est
non?
vrai, tu as raison. Alors nous, on essaie d'atteindre deux objectifs. Effectivement, on essaie de plonger les auditeurs dans une mini-série. Mais en même temps, on voit que les auditeurs, ils y reviennent. Parce que si je te fais une série Netflix sur la gestion des conflits, On y revient sur ce sujet-là parce que c'est un sujet que j'aime bien.
D'accord.
Donc, on va essayer de les plonger de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 10, je ne sais pas, ou 5, peu importe, dans une série de podcasts qui va gérer qui va parler du conflit sous différentes formes, sous différents angles. Sauf que dans leur vie, c'est pas forcément quand ils vont l'écouter, c'est pas forcément lorsqu'il est diffusé ce podcast sur les conflits qu'ils ont un conflit à ce moment-là. Ce qui va se passer, c'est que dans le cours de l'année, dans le courant de leur vie professionnelle, à un moment donné, il y aura un conflit. Et on n'a pas envie de les obliger à réécouter le podcast depuis le premier de la première du premier épisode jusqu'au dernier. Donc, on va quand même faire en sorte que les épisodes soient un minimum autoporteurs, avec une question suffisamment éloquente, avec une promesse par épisode pour que lorsqu'ils ont un sujet en particulier, s'ils veulent arriver sur un podcast, parce que c'est ce podcast qui les intéresse par rapport à leur sujet, bah, ils vont l'écouter celui-là.
Très bien. Donc, ça permet, ils ont une vue d'ensemble et puis derrière,
Voilà.
ils choisissent ce qui les intéresse au moment.
Voilà. Voilà.
Et donc, ça les rend actifs.
Ça les rend actifs, effectivement. Effectivement.
Dans la place du podcasting, il y a, je ne sais pas si tu te rappelles, le Clubhouse
Ouais.
qui a été hyper médiatisé au point que Poutine avait été sollicité par Elon Musk pour faire un débat. Donc, c'est pour dire la force en 2021.
Ouais.
Bon, maintenant, ça, c'est plus autant à la mode, mais ça avait introduit quelque chose d'intéressant, c'est le dialogue audio.
Ouais. Ça a introduit quelque chose d'hyper intéressant qui est finalement très très proche de la radio parce que c'était du direct. Donc, Clubhouse, donc c'était y a ça a 5 ans à peu près, parce que moi, lorsque j'ai commencé Nouvelle Voix, il y avait du Clubhouse et je me posais la grande question, est-ce que je fais une offre sur Clubhouse ou non? Mais finalement, j'ai bien eu raison de ne pas la faire parce que ça a pas continué. Et du reste, LinkedIn a également une possibilité de faire un live que audio. Ça marche pas.
Ah oui? Ah, ça, je
Non,
savais
ça
pas
ne
sur
marche.
LinkedIn.
Ouais, ça marche pas
Bon,
non
je crois
plus.
qu'il avait arrêté.
Alors, peut-être qu'ils l'ont arrêté récemment, mais en tout cas, moi, il
Alors,
y a
aujourd'hui,
peu.
Twitter le fait encore.
Ouais. Mais on en
Spotify, je
voit
crois
peu,
aussi.
hein.
Ben,
On en
on en
voit
voit
peu,
peu.
hein. On en voit peu.
Exactement.
En fait, j'ai l'impression que indirect, ça se vit au moment où ça se vit. On a du mal à avoir un replay de direct lorsque c'est quelque chose qui est aussi naturel et authentique. Et en plus, c'était très participatif, Clubhouse, parce que tout le monde pouvait intervenir à tout moment. Donc, c'était quelque chose qui se vivait au moment où ça devait se vivre. Et le podcast a finalement pas du tout tremblé au moment de Clubhouse, parce qu'en fait, le podcast, c'est la liberté d'écouter ce que je veux, quand je veux, sans être déconnecté de quelque chose auquel j'aurais dû pa participer parce que c'était en direct que ça se faisait. Donc en fait, on peut même 3 ans après, et c'est ça, c'est ce que je dis aux entreprises, faites un podcast, deux, trois, il y a des sujets comme les conflits, comme le management, quoi, il y a des grands sujets comme ça, 3, 4, 5 ans après, ils sont encore valables.
Bien
Et
sûr.
les gens qui vont consommer le média de la gestion des conflits, le podcast de gestion des conflits dans 4 ans, ils vont pas se dire que c'est un contenu daté. Ils vont être encore dans un contenu qui est tout à fait d'actualité.
Là où tu as complètement raison, c'est que que ce soit Clubhouse ou d'autres, ce qui est intéressant, c'est le fait de créer l'événement. Et donc, on crée le FOMO en disant il va se
Ouais.
passer un truc, l'animateur s'est animé. Il y a quelque chose, il se passe un truc qui se passe qu'une fois, et
Ouais.
je veux en être.
Ouais. Mais par contre, moi, je crois beaucoup, alors on en fait aussi beaucoup chez Nouvelle Voix, au live filmé, comme des radios en direct. On aime bien faire ça sur soit une journée, soit une demi-journée, soit la pause déjeuner, où tout d'un coup, tout le monde se connecte, ou que les managers, enfin tout dépendra du périmètre, mais tout le monde se connecte dans une espèce d'émission de radio en direct, interactive. Et donc généralement là, c'est pas comme Clubhouse, c'est-à-dire que la direction de la formation insiste sur le fait que tout le monde se connecte et on fait en sorte que ça soit le moment du learning. Et en live, tous ensemble, on monte d'un cran dans nos compétences. Et à chaque fois qu'on le fait dans les entreprises où on dit bonjour à tous et bienvenue dans ce live, vous allez tous monter d'un cran dans vos compétences parce que vous allez découvrir ça. On crée des masterclass dans des salles Zoom qui sont différentes où chacun peut aller de l'une à l'autre. On crée des moments où les équipes sortent du live pour réfléchir ensemble à leur plan de formation. Et on crée un moment où tous ensemble, de manière événementialisée, on apprend. Et ça marche très très bien.
Et dans ces cas-là, c'est pas que audio.
Donc, dans ces cas-là, ce n'est pas que audio.
En fait, c'est un zoom avec un bon animateur.
Un mode animateur, des
Oui.
caméras,
Ah oui,
une
donc en plus.
capacité de pouvoir faire des sondages. Parfois, il nous est même arrivé de faire des lives en déambulation où
Ouais, ça c'est intéressant.
voilà, et à chaque fois, on arrivait dans des salles différentes où on pouvait montrer des choses différentes. En fait, on peut s'éclater, en fait. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire chez Nouvelle Voix. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, on est fou de médias, on est fou de nouveaux formats, on adore ça. Et on essaye d'amener ça dans des sujets de formation, de communication d'entreprise. Et on ne fait pas ça que pour un effet waouh, parce qu'on s'en fout de ça, nous. On le fait parce que on y trouve un intérêt. Voilà.
Est-ce que tous les formateurs peuvent devenir peuvent faire des podcasts?
C'est une très bonne question. Et alors, au risque de décevoir beaucoup de monde, non. Tout le
Ah,
monde ne
ça
peut
c'est
pas faire.
moche.
Ça, c'est moche. Mais tu le sais bien. Tu le sais bien, Stéphane. Toi, tu es derrière un micro. Lorsque tu l'es derrière un micro, tu n'as pas peur de lui. Tu l'appréhendes, tu sais parler dedans. Et ce n'est malheureusement pas donné à tout le monde. Alors, est-ce que ça s'apprend? Oui, ça s'apprend.
Très bien.
Évidemment que ça peut s'apprendre. Mais parfois, certains clients, et moi je dis tout ici, hein, je dis là où on s'est planté, là où on a réussi, et parce que c'est ça qui fait progresser, je pense, la communauté. On a parfois accepté de prendre le sachant comme étant la voix off, etc. Bah, c'était plombant. Du coup, on a dû derrière rajouter une autre voix off pour. On appelle ça un enrobé pour enrober la voix de l'apprenant dans une autre voix qui, elle, faisait en sorte de maintenir l'attention. C'est un métier, en fait, de maintenir l'attention, de capter, de créer cette motivation intrinsèque, de conserver jusqu'au bout l'attention. C'est un métier, en fait.
Et c'est vrai que les experts ont tendance à insister davantage sur le savoir de leur expertise et pas sur la transmission. Et c'est ce qui fait défaut. Ils n'animent pas, ils donnent pas de la vie, de la saveur au savoir, quoi.
Oui, et je crois que les experts doivent rester experts parce que c'est hyper riche. Mais dès lors qu'on leur demande d'avoir une expertise qu'ils n'ont pas, ça peut avoir tendance à décrédibiliser leur expertise. Et donc là, on a tout perdu. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout le temps avoir un professionnel, de tout le temps prendre une agence, même si nous, on aimerait bien beaucoup travailler parce qu'on adore faire notre métier. Mais il faut un minima quelqu'un qui peut prendre le micro, poser des questions, créer une interview, un rebond, peut-être même des questions bêtes qu'on peut se poser et se faire quelque part, lorsqu'on interview, on se fait quelque part l'ambassadeur de l'auditeur qui se pose une question dans sa tête, puis paf, tu vois, quand tu me poses une question, je suis sûr qu'avant, il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui se la sont posées, et toi, tu me la poses.
Je mets à leur place, c'est exactement
Tu
ma
te
démarche.
mets complètement à la place des auditeurs dans tes questions. Et ça apporte de la valeur au podcast.
Merci. Alors justement, pour mettre à la place encore deux, finalement, le streetcast, finalement, qui dit que tout le monde peut se lancer, ce qu'on voit aussi sur les plateformes, hein, il y a plein dans la formation, dans l'enseignement, il y a plein de gens un peu bizarres qui le font, non pas comme toi tu le proposes, professionnellement bien calé. Mais je pense à ce professeur qui le faisait en allant. Donc, il devait marcher un peu longuement, il devait avoir une côte, parce qu'à un moment, il était essoufflé. Mais c'était assez chouette, parce qu'on était avec lui dans son histoire.
Ok.
Il nous racontait quelque chose. Et donc, le streetcast avec des bruits, quelqu'un qui dit bonjour, comment tu vas? Je laisse sur l'enregistrement. Et donc, ça donne un univers, finalement, démocratisé et non pas un
Oui.
expert qui parle d'en haut. Le streetcast, tu dis, c'est bien ou pas bien?
On adore le faire, le streetcast. Mais en fait, moi, j'ai des retours qui sont, comment dirais-je, ils sont mitigés. Certains adorent ce côté immersif, ce côté on sort du studio, on va sur le terrain et nous on aime le faire. On fait des podcasts pour FH, pour des entreprises qui sont très terrain, voilà. Et donc on se voit pas le faire en dehors du terrain et être en studio. Pour nous, ça serait une faute, voilà. Donc on le fait sur le terrain. Et donc il y en a qui adorent ça et il y en a lorsque c'est, pardon, mais lorsque c'est mal mixé, il peut y avoir des bruits trop forts qui enlève l'attention, qui t'empêche d'être sur le cœur de ce que tu veux transmettre. Et donc là, ça marche moins. Donc en fait, nous, on le fait, les podcasts en extérieur, parce qu'on sait qu'on a une équipe derrière d'ingénieurs du son qui savent mettre ce qu'il faut pour que les bruits ne soient pas trop, trop présents et que il nous arrive même parfois dans des endroits où on enregistre, on fait l'interview et après on prend des bruits d'ambiance
Ah oui, pour rajouter, hein.
pour les rajouter, mais comme on veut nous. C'est-à-dire pas subir les bruits d'ambiance, mais choisir les bruits d'ambiance pour les mettre là où on veut les mettre. Donc voilà, il y a plein de manières de faire, mais...
Et ceux qui disent justement de cette esthétisation du podcast, ceux qui disent ça serait bien de prendre des acteurs, alors à voix bien sûr, pour faire passer le message. T'es pour ou contre?
Ah, on est plus nuancé que ça, tu le sais, Stéphane.
Ah, tu voudrais dire je grossis le trait exprès? Ça serait moche.
Non, non, je vais te nuancer un peu. Oui pour capter l'attention, oui pour synthétiser des choses, oui pour créer un lien entre quelqu'un, un expert qui va parler et une voix qui va peut-être synthétiser ce qui vient de s'être dit et réintroduire le sujet d'après. Oui pour créer ces espèces de transitions. D'accord? Mais attention, attention. Il y a un truc sur lequel moi je ne transige jamais, c'est l'authenticité et l'humanité de ce qu'on crée dans nos parcours et dans nos podcasts. Un podcast, les podcasts, les gens aiment les podcasts parce que c'est humain, parce que c'est authentique et parce que bah en fait la voix, elle est censée être le miroir de l'âme. Et si je te fais bonjour et bienvenue dans ce podcast avec Stéphane Diebold, et puis ensemble, enfin, tu vois, ça marche plus, ça marche pas. On se voit pas en entreprise faire un podcast de formation avec une voix trop, trop
Bonjour les petits
travaillée.
loups, quoi.
Bonjour les petits loups, ou alors une voix trop pub, ou une voix
Ouais,
trop
c'est ça.
pub, voilà, une voix trop pub. On fait pas de la pub, on est en train de vouloir faire en sorte que les gens augmentent leurs compétences. Donc, voilà.
Il faut des voix authentiques.
Faut des voix authentiques, il faut faire hyper gaffe parce que parfois, être trop ostentatoire, avec une voix trop léchée, pardon, voilà, et ben ça va nuire complètement au contenu parce qu'on va se sentir être le produit de quelque chose à qui on veut vendre. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire? Non, il faut rien vendre à personne. Il faut simplement, dans une démarche apprenante, naturellement, authentiquement, transmettre des compétences. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir des apparats et des choses qui soient trop, voilà, trop voix off, trop travaillées, quoi.
Comment tu fais quand tu dois interviewer quelqu'un qui fait une présentation? Parce qu'un dirigeant qui fait une présentation est toujours intéressant pour lancer un parcours. Quand tu développes et que la personne n'a pas une voix qui soit agréable, du
Ouais.
style pas trop perché ou des choses comme ça, tu lui dis non?
Alors on dit jamais non.
Exactement.
On peut pas dire non parce qu'en fait, moi je trouve qu'il y a quelque chose de génial dans le podcast, c'est que tout le monde peut beaucoup plus facilement qu'avec de la vidéo participer à un podcast. Ça ouvre le champ là où la vidéo n'est réservée quelque part qu'à des bons clients ou des bonnes clientes qui
Absolument.
vont être à l'aise face à une vidéo. Le podcast ouvre le champ. Et le podcast va permettre de valoriser des gens qui savent des choses. Moi, jamais je vais dire non à quelqu'un qui a envie, parce qu'il a enfin trouvé un moyen de s'exprimer au travers d'un média qui est pas intrusif. Le podcast, c'est pas très intrusif parce que ça nous filme pas. Enfin, bon, je vais pas lui dire non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on le coach un peu. On essaye.
Ouais.
On va jamais trafiquer sa voix, évidemment. On va le coacher un peu, on va lui expliquer que ben non, ça sert à rien de parler trop vite, parce que les gens qui parlent trop vite, c'est qu'ils ont l'impression que les gens s'ennuient. Alors on va expliquer que non, les gens ne s'ennuient pas en t'écoutant. Donc tu peux aller plus doucement. Si les gens parlent trop haut, c'est que quelque part, il veut montrer de l'intérêt, il veut se montrer, mais non, mais t'inquiète pas, baisse. Et souvent, la rapidité vient avec le son un petit peu haut. Donc, il y a des petits archétypes comme ça de voix et de comportements qui sont assez proches, d'ailleurs, Stéphane, de la capacité à parler en public. Il y a des gens qui vont être trop lents, des gens qui vont être trop rapides, des gens qui vont monter dans les tours, des gens qui. Et tout ça, il y a des outils. Donc, nous, on est formés à ça et on accompagne les gens qui sont derrière leur micro pour que ce soit une belle expérience pour elles, en fait.
Très bien. Alors, si on avait un responsable de formation qui se dit, ça me plaît bien le podcast, tu lui conseillerais de commencer par quoi?
Écoute, moi je lui conseillerais de commencer par un sujet qui nécessite de former beaucoup de gens dans un court moment sans leur prendre trop de temps. Je vais te
Très
donner
bien.
un exemple. Moi j'aime bien le sujet de l'entretien annuel. J'aime bien ce sujet-là. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas former tout le monde aux entretiens annuels qui se passent entre le mois 1 et le mois 3. Impossible. Enfin, impossible dans des bonnes conditions. Genre, on peut obliger de faire un e-learning? Est-ce qu'on oblige tous les ans à faire un... Non, oh, mais l'entretien annuel, c'est quand même un sujet qui se prépare, qui se travaille. Du côté management, il faut être formé pour faire un bon entretien
Bien sûr.
annuel. Du côté du manager, il faut aussi savoir comment demander certaines choses. On ne demande pas une augmentation de n'importe quelle manière. Donc moi, j'aime bien ce sujet. J'aime bien le sujet de management, gestion des crises. J'aime bien ces sujets de soft skills. Voilà. Parce que ces sujets de soft skills, ça va être un sujet qu'ils vont pouvoir utiliser pendant longtemps. Et finalement, leur podcast, il va être rentabilisé parce qu'il va être utilisé pour beaucoup de gens durant de nombreuses années. Un podcast qui serait trop technique, et si c'est technique,
Oui,
presque
ça va
par
être...
définition, ça évolue parce que la technicité évolue quasi tous les jours en ce moment. Donc là, bon, ça risque d'être un peu daté dans quelques mois. Donc commençons par un podcast qui, voilà, qui fait le plus de sens économiquement et qui permet de scaler, un grand mot, mais de scaler de la formation avec un contenu différent.
Et toi, tu pourrais imaginer, par exemple, une école de management uniquement en podcast?
Non. Je vais être tout à fait transparent avec toi. Je suis producteur de podcasts de formation, mais je suis intimement convaincu que rien ne va remplacer la formation présentielle. Rien.
Donc un complément.
Un complément. En revanche, et je vais un peu nuancer,
Bien
je
sûr.
crois que si les personnes qui nous écoutent, qui travaillent dans le monde de la formation, s'emparaient un peu plus du podcast, elles pourraient, par exemple, avant une formation physique, faire la promotion de la formation par podcast. Parce que tous les formateurs sont pas bons devant une caméra pour promouvoir leur formation. Alors qu'avec un podcast, on va pouvoir attirer plus de monde. Ça, c'est la première chose. Lorsque les gens vont être inscrits, on va pouvoir par podcast transmettre un certain nombre d'éléments peut-être théoriques qui sont généralement au début des formations présentielles. Voilà. Si on crée un podcast avec ces éléments théoriques qu'on demande aux gens d'écouter, alors qu'on sait, lorsqu'on demande aux gens de regarder un contenu, de le lire avant d'arriver, il faut que vous ayez lu telle ou telle chose. Bon, toi et moi, on le sait, on l'a rarement fait. On venait un peu les mains dans les poches, en fait, en
Ça
formation.
dépend des cultures d'entreprise. Il y a certaines cultures où
Ah
les gens
ouais.
sont très, voilà, très. Et on me le dit, je fais.
Ok,
C'est
bah
marrant, hein?
d'accord. Alors pardon, si je peux me tromper, enfin
Non,
je me trompe.
je t'en prie. Hein.
Mais c'est bien, c'est un échange. Donc moi, ce que ma conviction, c'est que si on prépare les éléments théoriques et obligatoires et qu'on les envoie par podcast avant, la formation présentielle va s'orienter davantage autour de cas pratiques, autour de choses beaucoup plus des exos, des choses comme ça. Et ça va transformer l'expérience apprenante de cette journée de formation physique. Donc nous, on n'aime pas trop l'e-learning. Parce qu'on a le sentiment que les gens y vont pas forcément avec des bonnes intentions et que beaucoup de gens nous parlent en disant on n'en peut plus des e-learning, etc. Donc nous, on n'est pas trop fans de ça, mais c'est un parti pris, c'est une conviction, et je sais qu'il y en a beaucoup, donc je vais peut-être me faire beaucoup d'ennemis. Mais par contre, tous ces formateurs-là qui font un travail incroyable dans les salles de formation, ils sont absolument nécessaires, et nous, on vient en complément.
Et donc aujourd'hui, une des grosses tendances, c'est l'apprenant qui prend en charge ses apprentissages. Finalement, est-ce que tu dirais que l'apprenant peut aussi produire du podcast?
Ouais, c'est une très bonne question ce que tu dis. Alors oui, nous on a construit une plateforme pour ça. Et je
D'accord.
crois que tu ne le sais même pas, donc tu savais même pas que tu allais faire la transition.
Oui.
On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens dans l'entreprise qui avaient beaucoup de connaissances, de compétences sur des soft skills, sur des choses techniques, sur des choses métiers, peu importe, il y a de la connaissance partout. Et en fait, il se trouve que c'est la formation la moins chère à produire, théoriquement. Parce que c'est de la formation qui appartient à la culture, au patrimoine de ce qui se passe dans les équipes. Et donc, on s'est dit avec mon équipe, on s'est dit comment on va faire pour que les entreprises, elles puissent créer leur propre contenu de partage. C'est de la pérologie, c'est comme ça qu'on appelle ça?
Pédagogie.
Péragogie, c'est toi qui m'as appris ce terme en plus, Stéphane. La
Ah, très bien.
péragogie. Non, mais c'est vrai, je t'écoute, hein. Moi, je t'écoute.
Non, je crois.
Mais du coup, je ne l'ai pas bien retenu, tu vois.
Ouais.
Donc, comment on va faire de la pédagogie dans les entreprises sans pour autant qu'il y ait toujours une équipe qui vient tendre le micro, etc. Et on a construit une plateforme qui s'appelle Vocality. Vocality, ça permet aux équipes d'enregistrer un message audio, comme un WhatsApp audio. En réponse à une question, par exemple, on va envoyer à des managers comment vous faites pour gérer les émotions exacerbées de vos équipes lorsqu'il y en a de très fortes. Voilà, paf. En fait, ils ont tous une manière, ou alors il y en a qui savent pas faire, donc ils vont pas répondre. Mais ceux qui savent, ils vont pouvoir enregistrer sur la plateforme un petit message de 2 minutes. Et ben moi, je fais comme ci, comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Et une fois que tous les managers qui ont accepté de participer l'ont fait, en un bouton, ça crée un podcast qui va agréger, qui va rassembler tous ces témoignages. Et ça crée également un cursus écrit de formation, un texte écrit, qui permet d'avoir finalement comme un article qui va synthétiser les meilleures pratiques. Et donc, ça n'en fait pas des gens qui font des podcasts. Mais ça leur permet à tous ces gens-là d'être valorisés dans un podcast qui va apprendre aux autres avec un effort moindre, c'est-à-dire que ils peuvent le faire quand ils veulent, tant qu'ils sont au calme, ça nous va, avec leur téléphone ou leur ordinateur, et c'est tout ce qu'on leur demande. On ne leur demande pas d'avoir une expérience trop compliquée ou trop stressante, en fait.
Ouais, c'est génial. Et d'ailleurs, ces pépites, on peut leur demander de poser des questions. Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent?
Mais
Et donc,
bien
ça
sûr.
fait, pour un pédagogue, c'est extraordinaire. On part du terrain.
Tu pourrais très bien, avant une formation, demander aux stagiaires, aux apprenants, quelle est votre plus grande difficulté par rapport à la formation qu'on va suivre ensemble. Bah, ils vont tous, d'ailleurs, beaucoup plus facilement enregistrer leur voix qu'écrire quelque chose. Parce que si tu demandes juste à des gens d'écrire, bon, ça, un peu flemme d'écrire. Un peu flemme.
Et puis
Alors
tout le
que
monde
si
n'est
tu
pas à
dis,
l'aise.
tout le monde n'est pas à l'aise, alors que si tu dis, bah, juste appuie là et puis tu enregistres le truc comme tu veux, bah, en fait, bon, on peut croire que les gens ne sont pas à l'aise parce que c'est un micro, mais en fait, si, ils sont à l'aise parce que tout le monde se fait des WhatsApp audio, enfin, pas tout le monde, mais ça devient de plus en plus dans l'air du temps de se faire des petits enregistrements audio avec son téléphone. Et le formateur, il va aussi entendre beaucoup plus de choses qu'il y en aurait écrit. C'est-à-dire, il va entendre peut-être une hésitation, peut-être une émotion, peut-être une certitude. Ça va apporter plus de, ouais, plus d'éléments qui vont lui permettre d'appréhender sa formation.
Pour toi, quel est l'avenir du podcast?
Écoute, moi, je crois depuis très longtemps que le podcast va devenir de plus en plus un outil qui va s'intégrer dans les sociétés. Et je parle des sociétés parce que les entreprises vont de plus en plus s'en emparer, je crois, parce que c'est la manière la plus simple de produire du contenu que de l'apprendre depuis la voix des équipes. Voilà. Et aujourd'hui, avec les outils technologiques qu'on a, on arrive à partir d'une voix à en faire une transcript. D'un transcript, on peut en faire une vidéo. Enfin, aujourd'hui, les outils permettent quelque chose d'assez génial, c'est que enfin, on va pouvoir créer des contenus qui collent aux envies et aux besoins de chacun. C'est-à-dire que dans les années 2000-2010, même 2000, au début des années 2020, les équipes faisaient une vidéo ou un podcast ou un article. Ils n'avaient pas la possibilité d'avoir différents formats pour un même contenu, parce que c'est trop compliqué. Moi, ce que je vois de génial avec l'IA, alors il y a plein de trucs qui ne sont pas géniaux, etc., où il faut s'en méfier, mais il y a un truc qui est génial, c'est qu'on va pouvoir faire en sorte que ce ne sont pas les équipes qui vont faire un pas vers nous, producteurs de contenu, mais c'est nous qui pourrons faire un pas vers les équipes en tant que producteurs de contenu. Et donc, ceux qui préfèrent écouter vont pouvoir écouter, ceux qui préfèrent lire vont pouvoir lire, ceux qui préfèrent regarder vont pouvoir regarder, et ça, la technologie. Donc, moi, je pense que le podcast va être génial dans sa capacité à pouvoir capter des choses de la manière la plus simple possible, la voix, et ensuite les retranscrire en différents types de supports. C'est un peu ça qu'on essaie de faire avec la plateforme Vocality qu'on a créée d'ailleurs.
Alors, sans vouloir casser l'ambiance, puisqu'on arrive vers la fin, c'est le fait de dire avec l'IA, n'importe quelle personne peut dire fais-moi une voix qui soit sympathique, etc. Finalement, ton métier a vocation à disparaître.
Oui, alors, c'est possible, effectivement.
Ouais, d'accord.
Moi, je ne crois pas. Parce qu'en fait, je crois que lorsqu'on veut dire aux entreprises qu'on fait attention à eux, lorsqu'on veut avoir cette fameuse symétrie des attentions qui est nécessaire pour dire aux équipes qu'on les considère, eh ben, en fait, il ne s'agit pas de lui envoyer un podcast généré par des voix IA. Ça se voit. Nous, on a fait le test, hein. C'est marrant que tu dis ça parce qu'on fait plusieurs fois des masterclass dans les entreprises. Et souvent, on fait le test. On leur dit, voilà, un podcast avec une voix générée par IA et un podcast avec une voix qui n'est pas générée par IA. Et on fait deux petits panels comme ça et on compare. Alors là, c'est clair, Stéphane. les personnes qui entendent le contenu qui est généré par une vraie voix l'entendent très clair et elles sentent qu'il y a quelque chose qui transpire, qui est humain. Et donc, elles ont d'autant plus envie d'écouter. Lorsque c'est par IA, bon, c'est quoi l'attention que j'ai vous, c'est quoi, moi, l'effort que je vais mettre à écouter un contenu qui n'est fait par personne? Bon, voilà. On est dans une époque, et après, je finis là, mais j'aurais beaucoup de choses à dire sur l'IA. On est dans une époque où on trouve ça génial. On est dans une époque d'avancée technologique, donc on teste des choses. Je vois même des entreprises qui testent Notebook LM, qui est une solution du
Bien
Google qui
sûr.
permet de générer des podcasts à partir d'un document PDF ou d'une présentation. Mais je pense que petit à petit, trop de choses, et l'IA permet de faire trop de choses, créer une espèce de surabondance et d'infobésité qui va pas dans le bon sens. Mieux vaut faire bien. Avec des parcours, pardon, avec des parcours pédagogiques qu'on choisit, qui sont travaillés, et mieux ça ira pour la rétention, pour la montée en compétence des équipes. J'en suis fermement convaincu.
Très bien, une bonne conclusion. Alors, c'était passionnant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment.
Merci.
On voit le professionnel, donc bravo. Alors, ceux qui t'aiment bien, comment est-ce qu'on fait pour te joindre?
Alors, vous pouvez me joindre sur LinkedIn, David Gordon. Je suis assez présent sur LinkedIn. Vous pouvez également joindre C Cécile Larue qui est associée sur la partie learning et on travaille tous les deux avec passion pour créer ces podcasts pour des entreprises, pour dans le domaine de la santé, du BTP, du retail. Voilà, on est vraiment très très sur différents types de contenu et de types de marché. Et vous allez sur notre site Nouvelle Voie Formation.
Top. Merci beaucoup. David Gordon, à très bientôt.
Merci Stéphane.